Merci d'écouter Radio Okapi. C'est l'heure de vous informer. Le journal Blaise Jordan Shindani Kambala.
Radio Okapi.
Mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire de ce journal, Médecins sans frontières avertis, la RDC reste confrontée à une combinaison préoccupante de violences, d'urgences sanitaires et de contraintes financières. Face à cette situation, MSF appelle à une mobilisation plus forte et à une réponse mieux coordonnée. Sortie de la liste grise du GAFI, la RDC intensifie ses préparatifs avant l'évaluation des experts internationaux. C'est dans ce cadre que la vice-ministre des Finances a présidé jeudi à Kinshasa une réunion du comité interinstitutionnel chargé du suivi des engagements de la RDC. L'invité de ce journal, c'est Jika Mondonga, gestionnaire scolaire d'origine congolaise résidant au Canada. Dans un entretien à la Radio Okapi, il démontre à quel point ces deux ouvrages peuvent constituer une innovation dans le système éducatif congolais. Mesdames et messieurs, voilà tout pour les titres. Encore une fois, bonjour à tous. Commençons par cette nouvelle alerte de Médecins sans frontières. Dans son rapport annuel 2025, cette organisation dresse le portrait d'une RDC confrontée à une accumulation des crises sécuritaires, des urgences sanitaires, des financements en baisse. Dans l'Est de la RD Congo, par exemple, les violences continuent de faire des victimes. Sur le front sanitaire, plusieurs épidémies persistent, dont Ebola qui poursuit sa progression. À cela s'ajoute une réduction inquiétante des financements humanitaires alors que les besoins ne cessent d'augmenter. Face à cette situation, MSF appelle à une mobilisation plus forte et à une réponse mieux coordonnée. Reportage de Sephora Mpaka Chipuna.
La RDC fait face à une superposition de crises qui fragilise davantage des millions de personnes. C'est l'un des principaux constats du rapport annuel de Médecins sans frontières. L'organisation humanitaire revient sur une année marquée par l'intensification des conflits armés.
Ce rapport met lumière à la convergence de plusieurs crises. Et c'est ça le grand problème ici. Dans l'Est du Congo. Il y a les conflits, il y a des épidémies, il y a aussi un élément très important qui est la réduction des financements humanitaires.
L'organisation s'inquiète également de la pression croissante exercée sur le système de santé. Entre insécurité, les besoins médicaux grandissants et la baisse des ressources disponibles, les interventions deviennent de plus en plus complexes. Autre sujet de préoccupation, l'épidémie d'Ebola. Selon MSF, la maladie continue de progresser avec des milliers de cas recensés et un lourd bilan humain.
On est encore loin peut-être de contrôler l'épidémie, d'autant plus que parmi les défis, on ne sent pas jusque-là l'engagement communautaire, donc il y a beaucoup de résistance. On est encore en train de travailler là-dessus.
Face à l'ampleur de ces défis, Médecins sans frontières plaide pour une mobilisation accrue de tous les partenaires. L'organisation estime que seule une réponse coordonnée entre autorités, personnel de santé et communautés locales permettra de mieux protéger les populations affectées.
Et puis, cette marque de reconnaissance du commandant de la 32e région militaire des FARDC, le général Antoine David Mushimba, vis-à-vis des casques bleus bengladais de la MONUSCO. L'unité d'aviation des casques bleus bengladais de la MONUSCO a beaucoup apporté comme appui dans la protection des civils en Ituri aux côtés des FARDC, a-t-il souligné. C'était jeudi dernier à Bunia, lors de la cérémonie de remise de la médaille des Nations Unies à ces soldats de la paix qui arrivent en fin mission. C'est-à-dire après un an de service dans cette province confrontée à l'activisme de groupes armés. Reportage Martial Kizabiamungu.
L'ambiance était à la fête ce jeudi matin à la base aérienne de la MONUSCO située dans l'enceinte de l'aéroport où plus d'une soixantaine de casques bleus délimités d'aviation du cortège Bangladais ont été décorés de la médaille des Nations Unies. Une récompense qui est décernée aux soldats de la paix après un an de bons et loyaux services rendus. L'unité d'aviation du cortège Bangladais participe régulièrement à des opérations d'évacuation médicale de militaires de FARDC blessés au front ainsi que des civils civils dans les zones affectées par les conflits armés. Selon le commandant de la 32e région militaire de FRDC à Ituri, le général Antoine David Mouchimba, les sacrifices de ces casques bleus a permis de sauver beaucoup de vies humaines.
Tous les contingents de la MONUSCO acceptent de donner leur vie pour tous les Congolais.
Pour les commandants de la force de la MONUSCO, le général Ulysses D. Mekista Gomez, ces hommes et femmes des Nations Unies ont démontré leur engagement au service de la paix. Depuis son déploiement à Ituri, il y a quelques années, l'unité d'aviation du contingent bangladais a effectué avec succès plus de 39 000 heures de vol sans accident. Bounia, Martial Kizabiamongu, Radio Okapi.
Deux jeunes ambassadeurs universels de la paix à l'école du savoir à Kolwezi, dans le Lualaba. Cette campagne de 100 jours axée sur la culture de la paix a été organisée en prélude de la commémoration de la Journée internationale de la paix qui sera chapeautée par la Fondation mondiale pour la paix. Ce programme a été couronné par la remise des diplômes de mérite aux officiers de la police judiciaire, ceux-là même qui se sont distingués dans la promotion des droits des victimes et dans la collaboration efficace avec les organisations de la société civile dans la lutte contre l'impunité et les antivaleurs. Écoutez les explications de Mgr Pax André Marie Kito Massimango, président du comité exécutif de la Fondation congolaise pour la promotion des droits humains et de la paix dans ses propos sélectionnés par Jean-Désiré Kanyama.
Au cours de cette cérémonie, nous avons procédé à la certification des 37 activistes des droits humains qui ont été formés à Kolwezi. C'est plusieurs matières, mais également, nous avons lancé la formation des jeunes ambassadeurs universitaires de la paix. Mais nous devons souligner que cette formation avait déjà été lancée à l'université de Kinshasa et déjà plus de 37 universités de la République démocratique du Congo suivent les cours chaque samedi et les cours sont donnés par des professionnels, des professeurs de différents domaines. Il faudra souligner que la société civile a encouragé certains professionnels des droits qui se distinguent dans le respect des normes et la lutte contre la corruption. Et en particulier, il y a eu 3 OPG de la police nationale qui ont reçu leur brevet de mérite décerné par les acteurs de la société civile.
Autre nouvelle, la République démocratique du Congo intensifie les préparatifs en vue de la mission d'évaluation des experts du groupe d'action financière, le GAFI. Une étape jugée déterminante pour permettre au pays de sortir définitivement de la liste grise des juridictions sous surveillance renforcée. C'est dans ce cadre que la vice-ministre des Finances, Gracia Yamba Kazadi, a présidé jeudi à Kinshasa une réunion du comité interinstitutionnel chargé du suivi des engagements de la RDC en matière de la lutte contre les blanchiments des capitaux et les financements du terrorisme. Reportage de Vanessa Kongolo, rendu par Jean-Désiré Kanyama.
À Kinshasa, la vice-ministre des Finances, Gracia Yamba Kazadi, a présidé une réunion du comité interinstitutionnel chargé de coordonner les actions liées à cet échange. La rencontre a permis d'examiner et d'approuver la feuille de route devant guider la visite sur place des experts internationaux. Selon elle, cette mission constituera un test déterminant pour évaluer l'efficacité des dispositifs congolais de lutte contre le blanchiment des capitaux et les financements du terrorisme. Elle a rappelé que le gouvernement a engagé depuis 2022 plusieurs réformes qui ont permis à la RDC d'enregistrer des avancées saluées par le GAFI lors de sa plénière de juin dernier. Gracia Yamba a appelé l'ensemble des administrations concernées à maintenir une forte mobilisation, notamment à travers la production de statistiques fiables et des preuves concrètes démontrant les résultats obtenus. L'objectif du gouvernement est d'obtenir, lors de la plénière du GAFI prévue en octobre 2026, la sortie définitive de la RDC de la liste grise. Un enjeu important pour renforcer la crédibilité financière du pays et améliorer le climat des affaires.
Nous allons à présent parler de quelque chose qui vous est peut-être arrivé. Depuis quelques jours, de nombreux consommateurs congolais voient leur compte de Mobile Money vidé par des arnaqueurs après avoir voulu profiter d'offres et de services partagés sur Internet. La dernière tendance consiste à proposer sur les réseaux sociaux, notamment WhatsApp et Facebook, des offres et des connexions Internet
Internet à des prix défiant toute concurrence. Concernant la connexion Starlink, les arnaqueurs proposent des abonnements jusqu'à 5 fois moins chers que les tarifs habituels avant d'inviter les internautes à cliquer sur les liens malveillants. Les personnes imprudentes qui cliquent sur ces liens deviennent ensuite victimes des vols de leurs données personnelles et de leur argent. Ronéline Tibonera nous aide à comprendre toutes ces tricheries pour pouvoir les éviter.
C'est en parcourant son fil d'actualité sur son iPhone 13 que Mr. Paf, habitant de Bukavu, est tombé sur ce présumé escroc. L'offre ressemblait alléchante. Une connexion Starlink mensuelle illimitée via une maison de télécommunications locale à seulement $7 américains. Sans trop réfléchir, il clique sur les liens et introduit ses identifiants.
Il m'avait demandé de télécharger l'application MyAirtel Africa pour payer cette offre. Après le téléchargement, il m'avait donné des instructions. Après avoir introduit les mots de passe et l'OTP envoyé, mes comptes en francs et en dollars ont été vidés.
Ce cas n'est qu'une goutte d'eau parmi tant d'autres répertoriés en RDC. Pour Arsène Tungali, spécialiste des politiques publiques et de la gouvernance de l'Internet, la méfiance s'impose face aux offres trop alléchantes et anonymes.
Il n'y a rien de gratuit sur cette terre ici. Lorsqu'il y a un semblant de gratuité, méfiez-vous déjà et soyez sur vos gardes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, cliquer sur n'importe quoi est un danger.
Pour rappel, le code du numérique en RDC prévoit une peine d'un à 5 ans de prison ainsi qu'une amende allant de 10 à 50 millions de francs congolais pour toute personne qui soutire de l'argent ou des biens en ligne au moyen de ruses, de faux noms ou de fausses offres.
Bonne nouvelle à présent, c'est le grand marché de Kinshasa qui fait peau neuve. Pour preuve, toutes les avenues donnant accès à ce marché sont dégagées et bénéficient d'une véritable cure de propreté. Un reporter de Radio Capi a effectué une ronde hier vendredi dans ce coin de la capitale pour s'en rendre compte. Les agents de l'hôtel des villes, visibles sur place, nettoient et réaménagent les abords immédiats du marché. C'est un reportage de Blaise Ndongala Mayanda.
Les alentours du marché central de Kinshasa ont changé de visage grâce au curage des caniveaux, au dégagement des collecteurs, à l'évacuation des déchets accumulés et à la réfection de la voirie sur plusieurs avenues stratégiques telles que Ex-Bokassa, Wakadingi, Dumaré, Dimarché, Télécole, Plateau, Kassavubu et Bolingo. En plus de ces grands nettoyages, des étals et marchés pirates qui obstruent les trottoirs et chaussées ont été démantelés. Rencontré sur place, un agent de la brigade des salubrités de l'hôtel des villes de Kinshasa a expliqué que cette politique zéro tolérance vise à rétablir l'ordre urbain et à garantir la fluidité de la circulation tout en préparant les conditions nécessaires à la réouverture officielle du marché central. Malgré les efforts récents de curage et de modernisation des voiries, les défis de la pérennisation de la propriété demeurent. Les autorités urbaines doivent encore relever la difficulté de modifier durablement les habitudes de gestion des déchets et d'empêcher la réapparition spontanée d'occupations informelles aux abords des pôles commerciaux névralgiques.
Des centaines de cultivatrices de légumes en difficulté en cette saison sèche à Kananga. Le manque d'eau occasionné par l'absence de pluie ne permet pas, en effet, l'accroissement normal des légumes dans cette ville en particulier et dans toute la province du Kasaï central en général. Du coup, la plupart de ces agriculteurs s'adonnent à la culture maraîchère pour ne pas trop souffrir du manque d'eau et ainsi subvenir aux besoins de leur famille. Et qui dit marais voit les moustiques, les serpents. Le quotidien, le combat de ces cultivateurs dans ce reportage signé André Katende Ngalamouloumé.
À Chilumba, dans la commune de Katoka, les marais sont en pleine activité. Pendant cette saison sèche, ils deviennent le principal espace de culture. Amarantes, choux, tomates, patates douces ou encore arachides y sont cultivés. Monique Ngalola fait partie de ceux qui pratiquent la culture maraîchère.
Pendant la saison sèche, la terre est sèche et les cultures ne grandissent pas. Voilà pourquoi nous faisons la culture maraîchère pour subvenir à nos besoins.
Quelques mètres plus loin, Rose Mputu arrose ses cultures à l'aide d'une bassine. Un travail pénible. Elle déplore le manque des moyens. Les semences sont rares, les outils sont insuffisants et la main d'œuvre coûte cher.
Nous n'avons pas d'outils appropriés pour travailler dans le marais. Nous souffrons aussi pour trouver les semences.
À ces difficultés s'ajoutent les moustiques, les serpents et les longues heures passées sous un soleil accablant. Malgré tout, ces cultivateurs continuent de travailler. Ils lancent un appel au gouvernement congolais et à ses partenaires pour un appui en semences, en matériel et en encadrement afin d'améliorer leur production. Kananga, André Katendengala Mulume, Radio Okapi.
La province du Kwilu compte désormais 80 nouveaux professionnels de santé communautaire. Ils ont été officiellement investis de leur mission hier vendredi après avoir prêté serment à Bandunduville. Plus encore, ils se sont engagés à respecter les principes d'éthique et de déontologie de leur profession afin de mieux servir les communautés. Cette cérémonie, il faut le dire, marque leur intégration officielle au sein du corps professionnel national de santé communautaire. Reportage de Jean-Claude Tangamou de la radio Télévision Bandundu Développement, rendu par Nancy Tambo.
À travers cet engagement, ces professionnels veulent à tout prix œuvrer à la promotion de la santé communautaire au bénéfice des populations, particulièrement dans la province de Kwilu. Pour ce faire, le président national du corps professionnel de santé communautaire, Willy Lukumu, est revenu sur le rôle et les responsabilités de cette organisation.
Les professionnels en santé communautaire jouent un rôle clé dans les systèmes de santé. C'est un maillot fort de la première ligne de toutes les interventions visant à améliorer la santé de la population. En particulier, dans la santé de la population de Kwilu, aux professionnels en santé communautaire, vous allez prêter serment, ce n'est pas une simple formalité, mais un éveil de conscience sur l'engagement ferme d'accepter de travailler dans les normes d'éthique et d'ontologie.
Clôturant la cérémonie, au nom du gouverneur de province, le ministre provincial des Transports, Bonaventure Kipa Lamoto, a pour sa part exhorté les nouveaux assermentés à exercer leur profession avec intégrité, discipline et professionnalisme dans le strict respect de règles d'éthique et de déontologie afin de contribuer efficacement à l'amélioration de santé des populations du Kwilu.
Actualité internationale.
En Tunisie, le 25 juillet marque l'anniversaire de la proclamation de la République tunisienne en 1957. Mais cette date est aujourd'hui aussi celle des 5 ans du coup constitutionnel du président Kaïs Saïed. Le 25 juillet 2021, sur fond de crise sanitaire et politique, le président du pays depuis 2019 s'empare des pouvoirs, limoge le gouvernement et gèle les travaux du Parlement, décrétant un état d'exception. 5 ans plus tard, le pays vit une dérive autoritaire et une période de fortes tensions liées à des coupures d'électricité et d'eau.
L'invité.
Jika Mondonga, gestionnaire scolaire d'origine congolaise, résident au Canada, parle de l'apport de ses deux livres sur la gestion et climat scolaire. Il a présenté le samedi 18 juillet 2026 à Kinshasa ses livres au cours d'une conférence qu'il a animée pour faire voir à quel point ses ouvrages peuvent constituer une innovation dans le système éducatif congolais. Jika Mondonga est notre invité. Il s'entretient ici avec Askin Zigba Tayoro.
Bonjour Monsieur Jika Mondonga.
Bonjour Monsieur le journaliste.
Vous avez écrit deux livres qui portent sur la gestion scolaire et le climat toxique affectant la santé et la carrière professionnelle des intervenants scolaires. Analysons d'abord le premier livre. Quelle innovation avez-vous bien voulu apporter dans la gestion scolaire?
Merci pour la question. L'innovation que j'ai voulu apporter dans ce livre sur la gestion scolaire, c'est notamment le fait d'apporter de la prévisibilité au travail, de donner une autonomie aux membres du personnel, parce que j'ai développé 71 enjeux que l'on rencontre régulièrement dans les écoles. C'est bien développé dans les livres. Même dans la deuxième partie du livre, j'ai donné l'exemple d'une planification annuelle, étant donné que l'année scolaire pour les administratifs commence au mois d'août et ça finit au mois de juillet. Donc, j'ai des transactions pendant tous les mois qu'on est à l'école et puis qui doit faire quoi. Donc, ça permet d'enlever le flou dans le travail des gens. Ça permet de donner cette autonomie aux gens parce que la direction d'école ne connaît pas tout. Donc, ça fait que les réponses sont déjà données dans les 71 enjeux enjeux travaillés dans ce livre. Donc il y a plusieurs stratégies qui permettent effectivement de diminuer le stress dans le chef de membre du personnel.
Autre question, quelle démarcation établissez-vous entre la problématique de la gestion scolaire actuelle en RDC avec la gestion scolaire à laquelle vous faites allusion dans votre livre que vous avez présenté au public lors d'une conférence tenue ici à Kinshasa à CEPAS?
La démarcation que j'établis entre la problématique de la gestion scolaire actuelle en RDC avec la gestion scolaire développée dans mon livre, c'est que on voit plusieurs éléments non structurés dans notre contexte éducatif de la RDC par rapport à ce que je présente. Il y a notamment le faible financement structurel du secteur éducatif, il y a la formation déficitaire des enseignants et des directions d'école, le climat scolaire marqué souvent par le stress professionnel et social, par la violence de toutes sortes, par le déficit d'autorité, par le clientélisme, etc. Dans le livre, je m'appuie par exemple sur les 7 corrélats des écoles efficaces développées par Larry Lesotte. Donc ça fait que ce sont des éléments que nous devons apprendre, que nous devons travailler dans notre système éducatif pour que la gestion scolaire soit plus efficace dans les écoles et pour amener la réussite des élèves.
Alors, quels sont les avantages que offre ce livre pour le système éducatif de la RDC?
Ce livre s'adresse aux directions d'école, aux enseignants, aux autres membres du personnel d'une école, aux parents d'élèves et à toute personne qui s'intéresse à la gestion scolaire. C'est un autre avantage. 71 enjeux sont développés là-dedans et ce sont des enjeux vraiment qui permettent à l'école d'évoluer. Donc, il y a plusieurs avantages à avoir ce livre et c'est un livre que je recommande vraiment à toutes les écoles de la République démocratique du Congo qui veulent avoir de la prévisibilité au travail, les écoles qui veulent enlever le flou. Donc, le ministère a vraiment besoin de ces livres pour faire avancer le leadership pédagogique dans notre pays.
Monsieur Dika, prenons le deuxième livre. Qu'est-ce que vous avez voulu dire en parlant d'un climat scolaire et toxique affectant la santé et la carrière professionnelle des intervenants scolaires, on peut dire autrement des acteurs scolaires?
Ce que je voulais vraiment mettre en avant, c'est l'aspect de la violence à l'école qui n'est pas vraiment documenté selon l'auteur français Desbarbieux, alors que la violence est vraiment fréquente dans les écoles, que ce soit au Canada ou encore à l'international, comme nous l'a dit Bauman en 2018. Donc c'est vraiment cet élément-là que je voulais faire savoir, parce que les intervenants scolaires vivent de la violence de la part des élèves, de la part des parents, des fois aussi entre intervenants scolaires. Donc c'est vraiment cet aspect des choses que je voulais mettre en avant pour qu'on essaye de travailler là-dessus et de ramener les écoles selon les 7 corrélats des écoles efficaces, dont le point notamment là de la sécurité à l'école, que tout le monde se sente bien à l'école, que toutes les composantes de l'école travaillent ensemble en harmonie.
Pour en finir avec cet entretien, Monsieur Dika, comment comptez-vous rendre applicable le contenu de ces deux livres dans le système éducatif congolais?
Personnellement, j'ai fait des demandes au niveau du ministère de l'Éducation, au ministère de la Justice. J'attends juste le suivi. Donc, un partenariat, ça serait quelque chose d'intéressant. Il faut amener la recherche dans les salles des classes. C'est ce que je propose dans mes livres. Il faut aussi songer vraiment à la formation des enseignants, à la formation des directions d'école. C'est quelque chose de crucial pour que nous ayons un système de qualité. Donc, pour le moment, je propose vraiment un partenariat. Je suis prêt à travailler avec le ministère de l'Éducation, le ministère de la Justice, la présidence de ce pays pour faire avancer les choses. Donc nous avons un système à réinventer. Moi, je suis prêt à travailler avec les institutions pour qu'on avance ensemble.
Dika Mondonga, je vous remercie.
Merci beaucoup.
Voilà qui met fin à ce journal parlé du matin préparé pour vous par Jean-Désiré Kanyama et Lievin Bouingavoubou et mis en onde par Alain Goy. Place à présent aux informations sportives avec Blaise Ndongala Mayanda qui vient de me rejoindre dans ses studios. Bonjour Blaise.